Radio & Co.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence.
Le podcast qui fait la différence. Différence.
Radio & Co.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Radio & Co, le podcast qui fait la différence. Christian Wicro, accompagné aujourd'hui par Thierry.
Oui, bonjour Christian et bonjour tout le plateau, bonjour Anthony, bonjour Laura, bonjour Nadine, bonjour Maxime, bonjour Seb à la technique.
Mais merci Thierry d'avoir fait les présentations. Donc aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Anthony Baquet. Alors Anthony Baquet, tu viens de nous proposer une conférence passionnante sur le cerveau ici à Café & Co. Et tu as bien voulu rester pour répondre à quelques questions. Donc merci à toi.
Merci pour l'accueil.
Donc tu es neuropsychologue. On va revenir sur ton métier dans l'interview. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots de la manière qui te plaira ?
Donc moi, c'est Anthony Baquet. Je suis neuropsychologue. Donc je vais expliquer après ce qu'est neuropsychologue. Je travaille auprès de personnes cérébro-lésées, c'est-à-dire qui ont une lésion cérébrale dans leur parcours de vie. Et donc, ça fait 9 ans que je travaille dans ce qu'on appelle une UEROS, qui est une unité d'évaluation, de réentraînement et d'orientation socio-professionnelle. Donc, en gros, on accompagne les personnes pendant 6 mois pour travailler un projet de vie après leur lésion cérébrale.
Est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours ? Comment en es-tu arrivé là ?
Je dirais, je donne des cours à l'université et je répète souvent à mes étudiants qu'on est psy et qu'on ne le devient pas. C'est-à-dire que donc je suis psychologue, en tout cas j'ai le diplôme de psychologue, mais j'avais ça en moi depuis toujours. Et donc j'étais intéressé par l'autre, j'écoutais mes camarades à l'école, je les observais. Et tout ça, c'est des compétences essentielles pour être psychologue. Et naturellement, donc, je suis allé vers la psychologie. J'ai commencé ici à Toulouse et il n'y avait pas à l'époque l'option neuropsychologie. Donc, je suis allé à Lyon pour cette option-là. Et j'ai fini à Liège en Belgique pour faire mon mémoire, qui est un peu particulier. C'est sur les expériences de mort imminente. Donc, on pourra peut-être en parler, c'est un sujet un peu à part. En tout cas, le cerveau m'a passionné depuis toujours. Et la neuropsychologie m'a permis de pouvoir avoir des réponses sur nos comportements. Et donc, je suis revenu vers la neuropsychologie en revenant à Toulouse. Et donc, là, ça fait 8-9 ans que je travaille dans un métier qui est une passion. Donc, j'ai fait 5 ans d'études de psychologie. Et je me suis spécialisé les 2 dernières années en neuropsychologie.
Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre neuropsychologie et psychologie ? Bon, il y a évidemment une bonne différence, mais peux-tu nous l'expliquer ?
Alors, je ferai plutôt la différence entre psychologie et psychiatrie, enfin, entre un psychologue et un psychiatre. Le psychologue, il doit faire 5 années d'études à l'université et il a le diplôme de psychologue. Donc, c'est ce qui est le cas pour moi. Pour le psychiatre, il faut faire des études de médecine et donc c'est 8 ans d'études avec une spécialisation à la fin. Et donc, ce n'est pas tout à fait le même métier étant donné que moi, en tant que psychologue, je ne peux pas prescrire de traitement, par exemple, alors que le psychiatre, oui. Donc ça, c'est une grosse différence entre nos deux métiers. Et donc, on est complémentaires.
Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la psychologie clinique ?
La psychologie clinique, c'est un peu ce qu'on entend de la psychologie. Quand on parle de psychologue, on voit le psychologue clinicien, en fait, qui va travailler souvent dans un bureau et écouter la personne en face d'elle et l'aider avec des outils, des techniques, selon son orientation, ce qu'elle a eu durant ses études. Donc là, il y a plein de techniques différentes et c'est pour ça que c'est très compliqué souvent de trouver le bon psychologue parce qu'il faut connaître un petit peu aussi son orientation et comment ce psychologue travaille. Et souvent, ce n'est pas très clair. Donc, psychologue clinicien, c'est très large en fait. On est tous psychologues cliniciens en fait, moi-même, mais spécialisé en neuropsychologie, donc sur le cerveau.
Anthony, as-tu des cas difficiles à traiter dans ta vie ? Dans ton parcours professionnel ?
Comme je disais tout à l'heure, moi-même, tout ce qui m'arrive, je vais m'en servir pour mon métier. C'est-à-dire que comme j'aide les autres, j'estime que s'il m'arrive quelque chose de désagréable, je peux voir comment ça se passe en moi et voir comment moi j'en sors pour aider les personnes qui pourraient passer dans les mêmes étapes, les mêmes questionnements. Donc déjà, ça part de moi. Et c'est pour ça que je disais, on est psy, on ne le devient pas. C'est qu'on se saisit de ce qui nous arrive et on décide de ce qu'on en fait. Donc moi, je me sers de tout ce qui m'arrive pour aider les personnes que j'ai en face de moi. Donc oui, évidemment, dans mon parcours professionnel, ensuite, j'ai vu des personnes qui avaient des situations compliquées après une lésion cérébrale, donc souvent, puisque je n'accueille que des personnes dans cette situation. Et ce qui est particulier avec cette population, c'est qu'il y a un avant et un après la lésion cérébrale, où la personne, elle a grandi de manière normale, elle avait un métier, une famille, des activités. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, tout est perturbé par la lésion cérébrale, y compris l'identité, puisque la personne ne se reconnaît plus dans ce qu'elle est devenue, puisqu'elle perd des capacités, elle peut perdre l'usage de la parole, elle peut ne plus marcher, ne plus savoir manger toute seule, etc. Et donc, le but de notre accompagnement, c'est déjà d'évaluer où elle en est pour proposer une aide. Donc moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui a un vécu difficile, je ne vais pas le prendre de manière négative, je vais essayer de le voir de manière positive. C'est-à-dire, ok, c'est pas agréable ce qui lui est arrivé dans le passé, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux dans l'avenir ? Donc même si une personne pleure en face de moi, je vais pas, ça ne va pas me toucher de sorte à ce que ça va me perturber dans mon travail, parce qu'une émotion elle va venir perturber le raisonnement. Je vais me nourrir de ce que je ressens pour le transformer en positif et en projet, en espoir, et voir comment moi je peux l'aider. Donc, même si l'histoire est négative en face, je vais essayer de la transformer pour la personne, pour qu'elle en fasse quelque chose de positif. C'est un peu le message que j'essaie de faire passer.
D'accord. Et est-ce que éventuellement le sujet attardé mental est un sujet équivoque ou éventuellement
par rapport à la lésion cérébrale?
Oui, en deux mots.
Alors attardé mental, c'est pas la définition scientifique, c'est plus la déficience intellectuelle dont on parle.
Pardon.
Mais on est là pour ça. Il n'y a pas de lien avec la lésion cérébrale en tout cas. Ça peut perturber parfois le raisonnement, effectivement, parce qu'on n'arrive plus à être attentif, quand il y a trop de bruit, on est perdu. Même dans l'organisation, on n'arrive plus à planifier les choses. Donc, oui, dans ce cadre-là, de l'extérieur, on peut penser que la personne a une déficience, mais ce n'est pas le cas. La déficience intellectuelle, c'est de naissance, et un peu comme les troubles 10, comme on appelle. On est avec et on peut vivre avec. Donc c'est l'idée, on ne peut pas guérir, mais on peut vivre avec. Contrairement à la lésion cérébrale où ça arrive d'un coup. Voilà, c'est la différence aussi.
Par quoi l'écoute et la connaissance de soi peut passer? Et comment une bonne connaissance de soi permet de se soigner?
Très pertinent, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. D'abord, j'expérimente sur moi. Donc, quand je me sens mal, je vois ce qui se passe au niveau de mes émotions, comment je suis triste, comment je suis en colère, quelles étapes il se passe et comment je peux en sortir. Donc, l'idée de se connaître pour un psychologue, c'est très important. Parce que finalement, entre humains, on est un peu tous pareils, on a tous un cerveau, le cerveau fonctionne globalement de la même manière. Après, chacun est différent et c'est là qu'il faut aussi... écouter l'autre, donc être attentif à ce qu'il va dire pour capter sa singularité et pouvoir l'aider lui et pas l'aider à travers nous. Parce que voilà, on est tous différents. Donc, pour être un bon psychologue, il faut savoir écouter de manière active. Parce qu'on peut écouter de manière passive, c'est-à-dire, oui, on reste impassible, on entend, mais on n'en fait rien de cette information. Alors que l'écoute active, c'est vraiment... se mettre dans la peau de la personne et lui poser des questions. Du coup, pour avoir des réponses, nous, essayer de vraiment se mettre à sa place pour l'aider.
Ça permet de se soigner, donc.
Oui, alors.
De s'écouter.
C'est vrai, tout à l'heure j'en parlais. Le fait d'écouter son corps, c'est important puisque je pense qu'on a en nous déjà toutes les clés pour s'en sortir. Alors pour les petits tracas du quotidien, même qui peuvent grandir avec le temps. Parfois les médicaments sont importants, mais voilà, il faut éviter de tomber dans la solution de facilité qui est le traitement, les drogues, les solutions extérieures à nous. On a déjà les clés en nous. Mais pour ça, il faut savoir écouter les signaux qui sont à travers les émotions, à travers les douleurs, nos pensées. Voilà. En tout cas, ça vient de nous à la base. Donc, si on arrive à écouter tout ça, ben, on pourrait éviter plein de tracas.
Déjà, à la conférence, tu as parlé beaucoup de prévention. Et je voulais savoir quels conseils, sans rentrer dans tous les détails que tu nous as exposés tout à l'heure, malheureusement, on n'a pas le temps, tu aurais envie de donner aux auditeurs pour bien entretenir leur cerveau et éviter peut-être les risques de maladies graves comme l'AVC, la maladie d'Alzheimer, etc.
Donc effectivement, ce qui est important, c'est de prévenir au lieu de guérir. Et pour pas mal de pathologies, on en revient au fait que la solution est en nous et que notre cerveau, il sait déjà ce qui est bon pour nous. Donc en fait, il faut savoir l'écouter, mais on peut aussi l'aider en lui donnant les bonnes ressources. Et pour ça, il y a un concept qui généralise tout, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie se base sur trois piliers, que sont le sommeil, l'activité physique et
la nutrition.
Tout à fait, merci. Et donc, ces trois piliers...
La nutrition, voilà.
Le fait de bien manger. Donc, bien dormir, ça permet au cerveau de récupérer au niveau physique et de bien ranger les émotions, les souvenirs, pour les récupérer plus tard. Bien manger, ça donne des ressources au corps pour affronter le quotidien. Et l'activité physique, là aussi, va faire du bien au corps et aussi au cerveau, à l'esprit. Ça nous libère. Et donc, tout ça en même temps va favoriser les connexions cérébrales, le fait de mieux récupérer après une lésion cérébrale, par exemple, et aussi le fait de ralentir le vieillissement. Donc, c'est pour ça que ça, c'est important de le savoir le plus tôt possible, puisque plus on va miser sur l'hygiène de vie au cours de sa vie, plus on va ralentir l'apparition de maladies. Donc voilà, ça c'est hyper crucial, mais par contre c'est difficile à tenir dans le temps. C'est pour ça qu'on le sait tout ça, mais on le met pas en place parce que ça demande un effort quotidien.
Penses-tu que la mémoire peut s'entretenir à tout âge ou que c'est irrémédiable quand on dit que les neurones, quand on vieillit, disparaissent et qu'on a l'impression de moins retenir les choses?
Alors, le vieillissement, c'est la perte de neurones, et ça, c'est naturel, on n'y peut rien. Par contre, comme je disais avec l'hygiène de vie, ça va. Donc, c'est le concept qu'on appelle de réserve cognitive. On va faire une réserve de connexion grâce au fait qu'on est entouré aussi, ça, j'en ai pas parlé, mais le fait d'être entouré socialement, ça va stimuler notre cerveau de manière naturelle. Donc, on va prêter attention, planifier des sorties avec les amis. On va discuter. Voilà, ça, c'est le cerveau. Et donc, ça crée des connexions. Donc, être entouré, ça va favoriser ces connexions et du coup, réduire les maladies. Et comme j'en parlais tout à l'heure, la mémoire, c'est ce qui arrive en dernier, l'oubli. Et la conséquence, soit d'un manque de sommeil, d'un problème d'émotion qui est mal géré ou souvent d'un problème d'attention. Donc, la mémoire, oui, ça se travaille toute la vie. Et c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. On peut apprendre à tout âge.
Comment aides-tu les gens à s'accepter et à pouvoir ensuite se reconstruire?
Alors effectivement, on peut dire ça, que j'aide les gens à accepter la nouvelle situation, mais le mot accepter est souvent mal vécu par les personnes parce que accepter voudrait dire de lâcher prise dans le sens où on baisse les bras en fait. C'est là, c'est la fatalité. Je préfère dire, et les personnes d'ailleurs me le disent, vivre avec au lieu d'accepter. Donc c'est là, j'ai pas voulu que ce soit dans ma vie. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Donc c'est un peu différent. Et donc oui, je les aide à vivre avec des moyens de compensation quand la capacité est perdue. Ou aménager l'environnement aussi, parce que des fois, la personne toute seule n'a pas les ressources, mais l'environnement peut l'aider à développer son potentiel.
Est-ce que tu répares le cerveau?
Alors, je ne suis pas mécano, mais quelque part, oui. En tout cas, le cerveau tout seul se répare. Et nous, on peut juste l'aider en donnant les raccourcis. Donc, le cerveau, ce sont des neurones qui créent des connexions. Et parfois, la lésion cérébrale, par exemple, va couper une route. Ben, on peut passer par une déviation pour aller à l'endroit visé en passant par un petit chemin qui prendra peut-être plus de temps, mais en tout cas, on peut revenir à l'endroit voulu, même si la route est barrée. Donc, c'est un peu mon travail, c'est d'aider à réparer, en tout cas, à faire fonctionner autrement.
Mais concrètement, est-ce que cela veut dire que dans certains cas, les personnes qui ont une lésion cérébrale peuvent retrouver des capacités qu'ils avaient perdues ?
Oui, heureusement. Alors là, tout dépend de l'endroit de la lésion, de l'importance, etc. Nous, les personnes qu'on reçoit sont assez autonomes. Donc, on peut travailler sur la conscience des troubles, etc. Enfin, il y a de quoi... Il y a du potentiel. Il y a une marge de progression. Donc oui, il y a des choses qui bougent. Alors que bon, il peut y avoir aussi des personnes qui sont alitées, qui sont dans le coma et qui restent un peu dans ces états longtemps. Là, voilà, là on peut pas agir. Par exemple, là c'est la nature qui fait que les lésions sont trop importantes. Donc voilà, il n'y a pas de solution pour tout le monde en tout cas. Mais pour les personnes que je vois, oui, c'est possible.
Moi, j'ai eu des lésions suite à mon épilepsie. J'ai eu un début d'encéphalite là, quand j'étais petite. Et bon, j'ai eu aussi une maladie orpheline aussi au début, quand je suis née. Et donc, ça a créé ça. Donc, c'est pour ça, ensuite, tout a été un enchaînement. Comme il a dit, crise séquelaire, etc. Et voilà, donc après, évidemment... Vous voyez très bien que la mémoire, parfois, elle faillit, quoi. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas. Après, j'ai développé quand même le langage, tout ça. Au début, ça a été un peu compliqué, l'apprentissage, tout ça. Et petit à petit, avec toutes les activités que je fais, etc., ça... Voilà. Heureusement, comme vous l'expliquez là très bien, il faut en faire. Plus on en fait, mieux c'est, quoi. Ça rend actif.
En tout cas, je confirme que tu as bien récupéré Zora. Hein. Parce qu'elle est bavarde.
Ah oui.
Et elle aime parler.
Tu parlais pas,
toi, et nous, on aime bien quand l'écouter parler en plus.
Oui.
Elle est gourmande et bavarde.
Arrête. Oh.
Non, en tout cas, c'est très bien Café & Co pour l'aspect social. Et justement, ça va vous stimuler naturellement. Donc, c'est ce qu'il faut chercher. Et donc là, dans ton cas, tu parlais de choses de naissance. Mmh. Effectivement, ça va perturber le développement des capacités. Donc le cerveau se câble jusqu'à 20-25 ans. Mmh. C'est en train de bouger. Et à l'école, on apprend des choses à certaines périodes. Et là, ça peut perturber ces apprentissages-là, les ralentir, par exemple le langage, la lecture, etc. Donc, ça n'empêche pas de pouvoir l'acquérir un jour, et on le voit là, dans le langage. Ça peut ralentir à un moment donné. Après, là, c'est aussi au niveau de l'école, comment elle permet de développer ses capacités quand on a une situation de handicap. Des fois, ce n'est pas très adapté. L'environnement n'est pas favorable au fait que ça évolue bien.
Moi, je n'ai pas accepté mon épilepsie, par exemple. Je ne l'ai pas accepté parce que déjà, on ne me l'a pas... On ne m'en a pas informé, genre.
Oui.
Or, on me connaissait quand j'avais 4 ans. Et moi, je l'ai découverte, enfin, entre guillemets, sans le savoir. Et on m'a dit pourquoi tu ne le disais pas, les éducateurs, évidemment. Et moi, je ne savais pas les symptômes. Et je suis tombée, quoi. Et donc, à l'hôpital, j'atterris. Et c'est là qu'on me dit oui, on te connaît depuis l'âge de 4 ans, etc. Et. J'étais surprise et là, mais j'étais en échec scolaire, quoi. Au début, non. J'étais très bien, j'avais de bonnes notes et tout. Et petit à petit, tout a dégringolé, quoi.
Ça, c'est hyper important. J'en parlais tout à l'heure aussi, la compréhension de ce qui nous arrive. Le fait de comprendre ce qui nous arrive, c'est le point de départ. Tant qu'on n'a pas compris, on ne peut pas cheminer. Et donc, ça peut ralentir les progrès parce qu'on a l'impression que ce n'est pas de chance ou on va en faire trop et on ne va pas faire au bon endroit avec les bons outils. Donc, quand on nous explique les choses, on arrête de culpabiliser aussi. Parce que quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, on a l'impression de mal faire et on s'en veut. Voilà. Donc, une fois qu'on a un peu la réponse et qu'on met des mots sur ce qui nous arrive, ça permet de faire des déclics. Et moi, je l'observe vraiment dans mon quotidien. Le fait de reprendre ce qu'est une lésion cérébrale, un AVC, un traumatisme crânien, si ça n'a pas été clair auparavant pour la personne, en fait, ça fait des déclics qui vont lui permettre d'accepter certaines choses pour lesquelles elle se battait alors qu'il n'y avait pas de solution et agir sur les choses où elle peut agir. Donc, je vais parler de la notion de responsabilité. Être responsable, c'est pas forcément être coupable. Enfin, c'est pas du tout ça, d'ailleurs, dans ce que j'explique. Être responsable, c'est reprendre le pouvoir de son parcours et se dire, OK, peut-être que jusque-là, j'ai fait des choix qui n'étaient pas hyper bons pour moi, mais je peux le changer. Et donc là, c'est se dire, je suis responsable de ces choix dans le passé, mais je peux le changer. Ce n'est pas dire « Ah, je suis coupable d'avoir fait ces choix ». Être coupable, c'est ne pas avoir de solution dans l'avenir. Donc, la notion de responsabilité, il faut l'avoir. Il faut se dire « Ah, j'aurais pu mieux faire. Bon, ben, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour mieux faire ?» Donc, soyez responsable. C'est pour ça que ça, je le renvoie souvent. Reprenez le contrôle de votre parcours.
Oui, oui. Mais il fallait aussi... Après, je finis, parce que je suis trop bavarde. Mais en fait, c'est parce que aussi, ce qui était dur pour moi, c'est que déjà, il fallait accepter, on m'a appris à accepter l'handicap visuel, qui n'était pas évident, pour plusieurs facteurs. Et ensuite, ça m'est tombé dessus d'un coup, et j'ai dit, mais dans ma tête, je ne pensais pas qu'on avait plusieurs handicaps. Vous voyez, donc, c'est là la difficulté pour moi psychologique, qui a été très compliquée, et à ce moment-là, même le psychologue, je l'ai refusé, même ça. Et j'ai été suivie par un psychiatre par la suite. Donc, psychologue, fini, quoi. Même là, je ne faisais même plus confiance. Enfin, c'était catastrophique.
Ça, j'entends souvent le fait de ne plus faire confiance au psychologue. J'en reviens à la notion de relation. Une thérapie qui va bien se passer, c'est une thérapie où on est en confiance envers le thérapeute. Et donc, avant de chercher le bon psychologue... qui a des bonnes techniques, etc., trouver la personne avec qui il se passe quelque chose, en qui vous avez confiance. Et là, cette personne, elle va pouvoir vous permettre d'exploiter votre potentiel. Si on a confiance, on va se livrer, et du coup, ben, ça aide le psychologue à avoir des outils pour mieux vous aider. Donc, s'il n'y a pas cette relation de confiance, ça ne marchera pas. Donc, c'est pour ça que des fois, il faut tester 1, 2, 3, 4 psys pour trouver la bonne personne. Donc, ne lâchez pas.
J'avais 14 ans, là.
Oui.
Christian. C'était différent.
Vas-y, Christian. Oui, moi, alors, désolé. Moi, j'ai une question très différente de celle très intéressante aussi posée par Zora. C'est peut-être un peu plus théorique, mais comme nous avons un spécialiste du cerveau, peut-être que tu auras quelques pistes, je ne sais pas. Je voulais savoir, aujourd'hui, la chirurgie et plus probablement les nouvelles technologies sont proches de pouvoir restaurer un sens comme la vision. Mais ce que je me demande, c'est si dans le cas d'un handicap de naissance, le cerveau serait capable d'interpréter ces informations si on arrivait avec des caméras, des capteurs, des choses tactiles à stimuler la vision, autrement que par l'œil. Est-ce que quelqu'un comme moi pourrait apprendre, tu penses, à voir ou pas, vu que le cerveau n'a jamais été habitué?
Très bonne question. Je ne sais pas si j'aurai la réponse absolue. En tout cas, donc comme tu l'as dit, les nouvelles technologies avancent, les progrès, donc avec les prothèses pour tout ce qui est motricité, donc pour la vision aussi, c'est pas mal avancé. Mais effectivement, ça se base plus sur les personnes qui ont déjà pu voir. Et donc, il y avait des connexions cérébrales qui permettaient déjà de traiter l'information visuelle. Et là, il suffit de se recâbler là-dessus, sur cette zone cérébrale qui traite la vision. Et on crée un pont, en fait, qui évite le problème et on voit de nouveau. Après, pour le cas de problématiques de naissance, effectivement, c'est pas dit. Parce que on se construit avec des représentations mentales. Pour ceux qui voient des images, pour les personnes malvoyantes, ça va être plus des sons, les autres sens, en fait, qui vont permettre de voir, entre guillemets, les choses. Mais c'est pas... la vision comme on l'entend. Donc, je ne sais pas vraiment... En tout cas, ce ne sera pas de la vision classique. Ce sera une perception de l'environnement, mais peut-être pas la vision claire, comme avec les couleurs, les formes, etc.
Mais je pense qu'il y a les choses, mais différemment, quoi.
Voilà, c'est une perception.
Moi, c'est ce que j'ai, la perception. Non, ouais. Mais c'est vrai.
Et d'ailleurs, après, pour la vision, en fait, si vous voulez, le cerveau, il y a un quart du cerveau, on va dire un peu moins, qui est dédié à la vision. C'est pour ça que tous ont mis beaucoup sur ce sens-là et qu'on estime que le handicap le pire à vivre, c'est de perdre la vision, pour ceux qui ont vu.
C'est vrai.
Pour ceux qui perdent la vue, c'est plus difficile que si on l'a eu de naissance, ce handicap, puisque le cerveau, de base, lui, s'est câblé différemment à la naissance et donc il va percevoir autrement, il va compenser avec l'audition, par exemple. Et pour le coup, les personnes malvoyantes vont être beaucoup plus performantes au niveau de la sensibilité auditive. Et je me rappelle de personnes qui identifient très vite des personnes qui arrivent au rythme des pas, à la manière de respirer. D'ailleurs, les émotions, tout ça, c'est... vous avez cette capacité à détecter des choses qu'on ne voit pas, nous, malgré notre vision. C'est ça qui est intéressant.
Est-ce que la drogue, ça va partir par le cerveau?
Alors, la drogue, les médicaments et les neurotransmetteurs, c'est la même chose. Ça agit au niveau de ce qu'on appelle les synapses. C'est la synapse, c'est le lien entre deux neurones. Le neurone, lui, il communique avec les autres neurones grâce à de l'électricité. Et au niveau de la synapse, c'est chimique. C'est pour ça que donc, les drogues, les médicaments agissent là. Ce sont des molécules qui vont activer ou désactiver des récepteurs. Et donc, la drogue comme un médicament va agir sur le comportement. Et ça, d'autant plus que la dose est importante, la fréquence est importante. Donc, c'est pour ça que les médicaments sont contrôlés pour éviter le surdosage et que le comportement parte dans tous les sens. Ça régule les choses. Donc, c'est important de suivre la posologie des médecins quand ils prescrivent quelque chose. Il faut le suivre. Après, je reviens sur la responsabilité. C'est de votre responsabilité de faire des retours au médecin pour que lui s'ajuste. Si vous sentez que c'est trop fort ou que vous avez perdu des choses en prenant le traitement, faites un retour et comme ça, lui s'adapte et vous pouvez retrouver l'équilibre. C'est ça qui est important.
Quand on a un AVC, comment interprète le cerveau par lui-même et est-ce qu'il ne pourrait pas éventuellement essayer de freiner et de contrer tout ça?
Alors naturellement, le cerveau, il a les solutions. C'est juste que des fois, la lésion est trop importante, donc tout seul, il ne pourra pas y arriver. C'est pour ça que la rééducation est là pour booster le processus naturel du cerveau. Et d'ailleurs, ce qu'on observe après une lésion cérébrale, c'est ce qu'on appelle la récupération spontanée, qui se déroule, on va dire, en moyenne pour les aspects physiques sur la première année et sur les aspects cognitifs sur 3 ans. Donc pendant 3 ans, même sans rien faire, le cerveau récupère. Mais d'autant plus si on le rééduque. Donc, c'est une collaboration entre le cerveau et les thérapeutes. Et donc, les théories, elles sont là pour trouver les raccourcis, en fait, faciliter la vie de la personne. Et une fois que cette phase-là est passée, que le cerveau a récupéré tout ce qu'il pouvait, on peut passer à une autre phase qui est l'adaptation de l'environnement. Et c'est là qu'on va ajuster les dernières variables pour aider la personne à mieux vivre parce qu'on va lui enlever les freins, en fait. Si vous voulez, c'est comme si on a le frein en main activé dès la naissance. La lésion cérébrale va perturber le moteur, donc tout d'un coup, on sent le frein. Et l'idée, après avoir réparé un peu le moteur, c'est d'enlever le frein à main. Comme ça, on a une nouvelle accélération parce que l'environnement est plus favorable. Donc, on peut aider la personne tout au long du parcours.
D'accord. Et toi, dans ton cas et dans ta profession et dans ton cadre professionnalisme, est-ce que tu as vécu ça au vu et d'un de tes patients ou de tout un tas de patients? Est-ce que tu es arrivé à ce terme-là?
Oui, alors à l'UROS, nous, on accueille les personnes justement après cette récupération spontanée du cerveau, puisque nous, on veut travailler un projet à long terme. Donc, on attend que le cerveau ait récupéré pour travailler un projet qui va durer des années. si on intervient trop tôt, ça bouge encore et donc le projet ne serait pas adapté. Donc, malgré tout, cette récupération spontanée, on voit les évolutions parce qu'il y a l'aspect social. Ils sont 20, les personnes qu'on accueille, et le fait d'être entouré, ben, ça booste les capacités du cerveau. Ceux qui ont du mal à parler vont parler beaucoup mieux. Ceux qui ont des problèmes d'attention, ça va aller mieux, etc. Juste parce qu'on est entouré. Donc, je reviens sur l'aspect important d'être entouré.
Est-ce que tu vas effectuer, ou ce que tu es en train d'effectuer, des travaux, des projets, voilà, des recherches?
Oui, bonne question, parce que depuis le début, j'observe des personnes donc, qui ont cette idée de avant-après. Et récemment, avec une collègue de l'université qui s'intéresse aux souvenirs définissant le soi, on voudrait savoir comment ce sentiment d'identité évolue au cours du temps.
Mmh, intéressant.
Et éviter la rupture qui est ressentie. Alors, pas l'éviter, mais faire avec. C'est-à-dire, il y a un trou dans le vécu et ça, le cerveau, il n'aime pas les trous, donc il va avoir tendance à combler avec des faux souvenirs parfois. Et je suis en plein dedans actuellement, c'est comprendre comment l'identité évolue et comment aider les personnes à mieux intégrer cette expérience à leur identité.
Et c'est souvent quand on est petit, enfin, il y a des chocs ou quelque chose comme ça, on a oublié quelque chose, on ne sait pas comment c'est venu. Et, enfin, moi je ne peux pas raconter comme ça, mais enfin, c'est un truc personnel. Mais c'est pour ça que je dis, mais comment j'ai pu oublier Enfin, c'est difficile, mais un membre de ma famille, par exemple. Donc, j'essaie de comprendre comment j'ai oublié cette personne proche, ma mère, quoi, on va dire. Et je connais, pour moi, c'était comme une étrangère, enfin étrangère, je ne sais pas comment on peut dire, mais je ne sais pas comment dire. Et puis, j'atterrissais, pour moi, c'est comme une dame, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'atterrissais là, je ne la connaissais pas. Vous voyez, c'est un peu bizarre, hein. Et c'est une amnésie, c'est quoi? Quand on est petit, c'est quoi?
Alors, la mémoire, elle fonctionne vraiment à partir de 3 ans, on va dire. Donc, si on a des souvenirs avant 3 ans, c'est censé être anormal. Et à partir de là, on peut avoir des trous, et c'est normal aussi, parce que la mémoire, elle est comme ça, on ne peut pas tout mémoriser. Après, il faut s'inquiéter du moment où c'est vraiment handicapant pour le quotidien, que c'est trop fréquent, et que c'est proche, là, du présent. Et souvent, on a besoin juste d'un indice pour retrouver le souvenir. Voilà, parce que les choses sont rangées au bon endroit. On retrouve l'indice qui était à l'origine et qu'on retrouve dans notre quotidien, et le souvenir remonte. Et d'ailleurs, c'est le problème dans les traumatismes, c'est que souvent, le souvenir remonte sans qu'on l'ait voulu. Et donc, l'idée, c'est de mieux ranger ce souvenir.
Et ouais, ça remontait pas avec le psychologue, hein, parce qu'il me faisait répéter, mais moi, ça me... Ouais.
Bon, nous arrivons. Alors, tu vois, Anthony, il a fait tout ce qu'il nous disait tout à l'heure avant qu'on démarre l'émission. Il a fait sa thèse sur le syndrome de mort imminente, si j'ai bien compris.
Ah oui, c'est vrai.
Et là, on arrive finalement à une forme de mort imminente. C'est la fin de l'interview.
Et, oh mince,
et donc,
dommage.
Juste avant que nous traversions le tunnel, voilà. Et que nous voyions une extinction comme ça de la lumière. On a une ultime question, et c'est peut-être toi, Christian, qui va la poser,
ouais,
à Anthony.
Oui, intelligent.
On va vraiment déjà te remercier de ta présence et de la qualité de tes explications.
Ah oui. Hein.
Vraiment, il y avait du monde.
De la
tu nous
patience.
As fait un marathon, là.
Et c'était chouette parce que c'était très interactif.
Un marathon de questions. Merci. Quand même.
Et de la patience aussi.
Voilà. Merci, Anthony, merci. Et tu es le bienvenu à Café & Co. Ouais, Christian, si tu veux, pour la dernière question.
Mais merci, Anthony. Alors, la dernière question va être très simple. Je voulais savoir ce que tu retiens de ton passage à Café & Co.
Ben, je retiens qu'il y a tout ce qu'il faut, justement, pour vous aider. C'est-à-dire l'aspect social, le plaisir, le lien, les ateliers, les activités. Voilà. Pour le cerveau, il n'y a rien de mieux que cette stimulation naturelle. Donc, vraiment, venez ici et profitez naturellement de tous les bénéfices que ça peut vous apporter.
Et merci, Anthony Baquet.
Merci, Anthony.
Merci beaucoup.